Chapitre 10. L'île de Vancouver m'enchanta. C'eût été facile de prendre racine à Victoria. Le climat était plutôt serviable. L'hiver n'était pas rigoureux, l'été pas trop chaud, le reste doux comme un duvet d'anatidé. Je croisais beaucoup d'Iliens sympathiques qui m'invitaient à partager leur hobby en m'ouvrant leurs portes et même leur carnet d'adresse. J'aimais beaucoup cet a priori positif, mais l'idée de me faire des amis, d'entrer dans un cercle où l'on doit compter sur les autres sans poser de questions, ne m'intéressait guère. Je n'avais pas ce désir, la solitude ne me pesait pas. Bien au contraire. Depuis mon départ, je ne rendais des comptes qu'à moi-même, sans chichi, sans m'embarrasser de Salam Alek. Des gens croisaient mon chemin au hasard, cela suffisait à nourrir mon instinct grégaire qui, je le sentais, n'était pas des plus développés. Comme j'avais pris mes quartiers dans cette belle cité, pas un jour ne se passait sans qu'une bonne âme, persuadée qu'être seul n'était pas un choix, me propose de partager différentes activités. Voir du monde, faire du bruit avec la bouche, parler du superflu, se confesser, transpirer autour d'une balle, plaisanter en se forçant à trouver ça drôle, picoler de concert, partager nos connaissances en barbecue, comparer les mécaniques, baver sur les courbes interdites aux bonnes mœurs, donner un sens et de belles excuses à nos lâchetés, comme si le tout et le rien étaient des moteurs suffisants à notre bonheur. Moi, je logeais dans un appentis au fond d'un jardin aménagé en mon honneur à quelques pas du Pacifique. Le regarder de vague en vague sans importun et sans commentaire me comblait. Observer un ours qui fouillait les poubelles d'un voisin jetant gras, longer la côte de longues heures, entendre, sentir, pourquoi s'alourdir d'autrui? Au fil de mon voyage, j'apprenais que mon équilibre ne dépendait pas des autres. Ils n'étaient que des jalons, des points de repère, plus ou moins positifs, mais de moins en moins des nécessités absolues dont aurait pu dépendre le centre de ma vie. Cette dernière suivait son cours sans dommage, libre de sa solitude, en sachant bien qu'elle s'écartait à grandes enjambées du sens commun. Mes relations avec les autres ne devaient plus être des échanges considérés comme inutiles. Dans ma recherche de but pour prolonger ma vie, trouver quoi faire de l'espace où je pourrais me mouvoir sans crainte, les êtres robotisés ne m'apporteraient plus rien. Évident, mon cher lecteur. Tous ces gens terrorisés par le changement tandis qu'ils devenaient mon indispensable chemin me laissaient le plus souvent sans voix, parfois désespéré, triste assez pour traverser la route, changer de direction. Qu'avais-je à leur dire qui puisse leur être utile, qui puisse me donner un petit supplément? Pourrions-nous nous aimer assez et éprouver suffisamment, apprendre les uns des autres? J'avais déjà les réponses à toutes ces questions. Je sentais déjà que l'issue du combat livré avec mon existence se passerait de spectateurs, de leurs avis ou de leurs encouragements. Le gîte m'avait été offert par un couple de migrants belges en échange de quelques heures de sueur. Ils tenaient un commerce d'importance. Il le dirigeait de tape dans le dos en hurlement, mais toujours avec ce sens du devoir accompli, de l'équité qui donne aux bovidés la sensation d'être bien gardés. Je leur servais de larbin une vingtaine d'heures par semaine, contre quelques dollars glissés dans le creux de ma main et l'autorisation d'utiliser un vieux pick-up cabossé. Elle me parlait comme à un demeuré et m'expliquait plusieurs fois comment accomplir ma tâche. Lui cherchait à m'entraîner dans ses beuveries dès qu'il voyait de la lumière dans ma cabane en bois. Pour autant, je ne rechignais ni au travail, ni au rôle d'accompagnateur. Il m'arrivait même de me porter volontaire quand ceux qui touchaient de vrais salaires freinaient les quatre fers. Je savais depuis longtemps que le travail est ingrat quand on s'y contraint. Tout reste une question de point de vue, d'angle d'approche, d'importance accordée. Sur le fond, la part de travail qui nous permet le superflu, pour laquelle nous sommes capables de nous étriper, est à jeter. Je découvrais de nouveaux plaisirs, trouvais de l'attrait à rendre des services à mes collègues, moi qui avais eu des centaines d'hommes et de femmes à mon service. La Belge, cependant, confondait service et servilité. Elle m'agaçait au point que je décidais d'écourter ma villégiature. Je ne voulais pas lécher le cul à un donneur d'ordre, quel qu'il soit. Un drame tomba à pic, facilita mon départ. Les Américains débarquant à Victoria en provenance de Seattle étaient le spectacle du week-end. Avec ce sentiment de supériorité, il me collait encore à l'âme, j'appréciais. Le ferry les menait au pays où la vie est moins chère, où l'expression « gagner au change » prenait toute sa saveur. L'été, c'était la féerie des couleurs vives, des fleurs exotiques, des motifs improbables. Il venait conquérant, chargé de dollars américains, pour repartir, les bras chargés de verroterie. Le tout conjugué avec une absence de complexe, propre à un peuple plus, qui se considère comme tel et qui n'a bien souvent d'égard que pour lui-même. L'obésité s'étalait par bonds successifs, dégoulinait des shorts. Les excès adipeux tremblotaient comme des masses gélatineuses au moindre mouvement. D'énormes vivants se déplaçaient dodelinant, le souffle court, la peau luisante de sueur tout en baffrant simultanément d'imposantes glaces. Bien entendu, ça parlait trop fort, oubliait l'entourage en encombrant l'espace bannière au vent. Les plus fortunés logeaient au Fairmont Empress Hotel. À lui seul, il méritait un détour. On vous y servait un thé au prix d'un repas complet chez les pauvres. Monument historique avec vue sur le port de Victoria, richement doté avec tout le confort, le luxe abordable, m'avait dit la Belge. Tous ces visiteurs et les autres mieux attifés, plus discrets, déambulaient aux mêmes endroits, des lieux que j'avais eu le loisir d'explorer. Victoria est la capitale de la Colombie-Britannique. Comme la plupart des capitales, elle propose aux touristes de nombreuses distractions. J'aimais traîner mes guêtres au quartier chinois. Au début du siècle dernier, la ville fut la porte d'entrée principale sur la côte ouest. Une population s'y était intégrée en créant les conditions d'un dépaysement doux avec bonheur. De fait, l'endroit ne reniait pas ses origines. J'appréciais cela, sans doute avec la naïveté bon enfant de l'optimisme. L'arche d'entrée en jetait, souhaitant la bienvenue au dollar du visiteur. Le quartier tout de briques vêtues offrait au pas de curieux dédales très étroits comme pour revendiquer un passé assumé sans complexe. Tout pour rendre mes déambulations heureuses, profitables. À la longue, comme l'endroit n'était pas géant, je m'étais fait des sourires. J'entends par là des visages qui me saluaient d'un petit signe de tête, d'un léger plissement des paupières, d'un geste imperceptible, d'une expression rieuse, de connivence avec ma présence, sans pour autant m'inviter à boire le thé. Une forme de convivialité qui prenait tout son sens, histoire de simplifier ce qui doit le rester. Simple. À quelques minutes à pied, Market Square, où j'aimais me restaurer d'un tacos que je dégustais assis dans la cour intérieure. L'endroit était sympathique, étrangement calme. Un coin de tranquillité découvert par hasard. Le coin du petit port de pêche, quoique chargé de pelletées touristiques, m'attirait tout autant. J'adorais les petites maisons colorées, pieds dans l'eau, qui avaient pris le temps de choisir leur maquillage sans l'imbécile nécessité d'uniformité. Le temps d'avant. Sans le balai d'hydravion parfois pénible qui n'amusait que les petits enfants ou les simples d'esprit. Certains jours, des phoques cherchaient pitance, jalousant probablement les amateurs de fish and chips qui s'engraissaient face à la marina. Les Belges avaient tenu à me guider, me faire découvrir leur ville d'adoption. J'acceptais, un brin suspicieux car chaque jour j'appréciais davantage la sauvagerie naturelle de l'île plutôt que ses trésors victoriens. Mes craintes s'avérèrent fondées. C'est ainsi que ma découverte de Victoria s'acheva. Dans la joie, la bonne humeur, avec une démarche de crabe, pour ne pas dire à reculons, et une bonne dose d'ironie. Faire semblant d'apprécier démesurément ce qui ne vous séduit qu'à peine pour ne pas blesser n'était pas toujours facile. Mes guides en faisaient des tonnes en poussant des « oh » et des « ah » que je devais valider d'un signe de tête. Heureusement, comme pour beaucoup de Nord-Américains, les visites étaient menées et commentées tambour battant, le temps imparti chronométré, si bien qu'en peu de week-ends, je découvris la cité chargée de pas mal d'histoires vu son jeune âge. Les châteaux ou apparentés furent vite expédiés. Pour peu que le style plaise, l'architecture britannique avait permis à de magnifiques demeures victoriennes pompeuses d'exister, dixit la Belge qui avait lu le bon dépliant. En fait, un étalage de richesse à faire baver les envieux, moins bien lotis, comme c'est le cas un peu partout. Regardez bien ce que je possède, faquin que vous êtes. Des faquins, là comme ailleurs, il y en avait. Au premier rang, les Belges, qui tôt ou tard se porteraient acquéreurs. Certaines bâtisses accueillaient les dormeurs et les sustentaient. Dans ce cas, nous prenions le temps de nous empiffrer ou de s'en jeter un, encore un autre, plusieurs, puis tirions le Belge par la manche. Il trouvait à l'arrêt, vautré dans un fauteuil, un charme indéniable. « On n'est pas bien là ?» Pour les autres édifices, il se stationnait pile devant, deux clics, un selfie et hop, au suivant. Ça m'avait fait drôle au début tant je ne croyais pas possible ce survol. Un frôlement leur suffisait. J'étais sidéré par cette absence de vie, de ressenti. Fallait-il qu'ils soient blasés? Ou tout simplement encrassés du bulbe? Je ne comprenais pas bien l'intérêt, surtout ce besoin de remplir sa journée parmi la meute avec du rien. L'imposant parlement n'en suscitait pas davantage. Pourtant, il devait se passer des choses derrière ces murs. Une seule petite anecdote aurait suffi à combler ma curiosité. Seul Butterfly Garden avait eu droit à une visite approfondie. La Belge semblait intéressée. Il avait fallu quand même qu'un volatile multicolore vint se poser sur son épaule pour qu'elle s'éveille. Sans doute lui avait-il susurré des mots d'amour à l'oreille. Les perroquets gavés de friandises n'étaient pas farouches dans cette jungle sans moustiques et, visiblement, les touristes s'émerveillaient de cette généreuse nature. Moi, cette image falsifiée d'une nature domestiquée ne me plaisait pas. J'eus une fois de plus la courtoisie de la fermer. Inutile de railler, de vexer, d'humilier ces gens. Rien de positif n'en sortirait. Rien ne changerait. Le temps où je blessais, tout en retirant du plaisir, était révolu. Je me sentais libéré d'un poids, d'une charge de haine pour qui ne me ressemble pas, d'un mépris pour l'ignorance des imbéciles, et j'en étais heureux. Heureux de voir ce complexe de supériorité m'abandonner devant un miroir qui n'avait pas tant que cela de raison pour se gausser. Comme j'avais eu la faiblesse de leur parler de ma soif de nature, de mon désir de calme, de sérénité, et qu'ils pensaient tous deux, étant mes aînés, avoir acquis assez de sagesse pour comprendre mon besoin d'absolu, ils me firent découvrir Malaa Skywalk à quelques encablures de la ville. L'antithèse de mes désirs profonds de nature. Le coin de concorde pour les familles modernes. Une tour pour apprécier la vue, qu'elle est belle, et elle l'était, une multitude de mobiles pour immortaliser, stockés parmi des milliers de clichés, perdus dans un capharnaüm jamais trié, tandis que les regards oubliaient l'infinie réalité, s'absentaient sur un petit carré. Triste à pleurer, mais les enfants riaient, les parents plutôt joyeux ne cherchaient pas au-delà. Qui étais-je pour dire qu'ils avaient tort? Avec le vieux pick-up, je découvris seul les alentours de Victoria. Au fur et à mesure, je prenais la force de cet environnement d'exception pour m'en nourrir, me soulager de toutes les questions. D'abord timide en ne fréquentant que des coins un petit peu civilisés, je m'enhardis sans peur, avec prudence, comme me le conseillait la signalisation. Entre autres, gaffe aux cougars et aux ours pas toujours fréquentables, n'ayant pas les mêmes pôles d'intérêt. Quand j'avais moins de temps disponible, je passais mes après-midi à French Bay, petit parc provincial à deux pas de la capitale. Au bord du Pacifique, aménagé sobrement avec un barbecue pour chaque emplacement, un petit tas de bois aussi, parfaitement entretenu, car fréquenté respectueusement par les visiteurs d'un jour comme par les campeurs. J'aimais bagnauder le long de la côte sur une plage, chaotique mais assez praticable, pas trop encombrée par les arbres échoués. Et la forêt ne grignotait pas entièrement l'espace. Je me baignais souvent dans l'océan froid, la présence du Gulf Stream dont tous vantaient le passage me semblait être une légende. Mais je trouvais ça chic, agréable une fois dedans. Je me rendais vraiment compte à quel point la chance m'adoubait. J'avais le sentiment d'être vivant, d'unir mes sens, de profiter de chaque minute comme essentielle, de n'avoir rien à guetter, rien à attendre. Ces jours d'escapade, je n'apportais pas de pitance, à l'exception d'un bout de pain. À disposition, rien que pour moi, les gens du coin n'étaient pas vraiment amateurs au point parfois de confondre les variétés de crustacés entre elles, d'énormes grappes de moules sauvages. Je les consommais sans compter, ou plutôt je me les goinfrais. Un Français qui avait l'air informé m'avait pourtant mis en garde en précisant que l'espèce dont je me repaissais à l'excès véhiculait plusieurs types de cancers. La bonne affaire, m'étais-je dit, un Français en goguette fait toujours son intéressant. Sa mise en garde, je n'en avais cure. Sans me préoccuper d'un avenir possiblement difficile, je les ouvrais à même le feu de bois, les dévorais en me brûlant les doigts, à peine cuits, fondant des juteuses. C'était délicieux. Avec un peu de chance, je dénichais parfois sous les cailloux des oursins. Mon dessert. Le ventre ainsi plein, bombé comme une outre, je m'endormais dans la cabine du pick-up, un peu piteux de ne pas avoir su me tempérer pour m'éveiller transi au petit matin. Le Belge, je le savais, s'ennuyait dans sa vie. Aucun de mes faits et gestes ne lui échappait. Il me disait alors « T'as encore été courir ?» Mes dénégations étaient inutiles, elles n'auraient fait que renforcer ses convictions sur la question. On prête aux autres ce que l'on voudrait qu'il vous arrive. Port Humphrey fut une de mes découvertes les plus agréables. Cette île était le coin rêvé pour égarer ses yeux et l'abondance de sites donnait à mes escapades des raisons de découvertes supplémentaires. Perdu dans la forêt, à 2 heures de ma cabane, le village clignait en tapant des mains dès mon apparition. Il m'offrait ce que mon gisant attendait, ce que mes désirs hurlaient. Il m'offrait la majesté de ses plages, de films d'aventure, des coins à couper le souffle, rester baba en se demandant pourquoi avoir tant attendu. Assez peu d'habitants pour ne pas avoir à faire de bruit, la quiétude d'un pays du bout du monde. Seul le ponton grinçait, et encore, c'était pour vous souhaiter la bienvenue. Comme l'arbre bonsaï du lac des Fées n'était pas loin, je le saluais toujours avant mon retour. Un pas après l'autre, je dessinais mes préférences pour me rendre à l'évidence. Les sites peu peuplés, sauvages au point d'être brutaux, inhospitaliers, me fascinaient. Je m'y sentais bien, apaisé. Mais comme j'y étais, que le lecteur veut en savoir davantage pour faire le beau en société, allons à Nanaimo. Belle sonorité, ça résonnait bien, exotique, sincère, un brin mystérieux, classe à part. Connaître Nanaimo posait un homme à l'endroit. Il s'agissait simplement d'en être éloigné le plus possible pour surprendre. Mais une fois sur place, cruelle réalité, sans être banale, la cité était, comme tant d'autres, un lieu principalement balnéaire. Les Vancouverois débarquaient chaque week-end en pays conquis. Ce n'était pas loin, juste en face. La côte était belle, le trajet en voile, à moteur, avec des ailes, assez court pour s'y jeter la journée. La face est de l'île était protégée des aléas climatiques trop audacieux. Les restaurants poussaient un peu partout, les balades propices aux envolées lyriques nombreuses, l'artisanat indien donnait à l'identité des lieux bonne conscience aux visiteurs, les baleines batifolaient souvent dans la baie et les enfants couraient joyeux quand ils n'étaient pas obèses. Un gentil coin à connaître pour qui appréciait le mouvement des êtres, aimait à se croiser, à s'entrecroiser, échanger des mots de pure politesse, se confier, conseiller son prochain, sourire ou rire de petits riens. Le tout paisible, so British, avec cette retenue inimitable, dit-on. Nanaimo m'avait vite lassé. J'avais trouvé bien mieux. Un coin collé à mes envies. En venant par le sud, un léger crochet, hasard ou intuition, m'envoya voir là-bas, à Cowichan Bay. Sans doute, la découverte le confirma, un ange prit le volant, me guida. Pour y accéder, je m'enfonçais dans la vallée Cowichan avec cet allant qui guide parfois nos pas, sans la moindre crainte, sans la moindre peur, certain d'être au bon endroit. Je pris une route fiéfément raide, comme c'était pas permis. Le véhicule pissait son huile en fumée, crachotait ses miles accumulés, grinçait des boulons à s'en péter les écrous, soufflait prêt à s'étouffer pour quelques degrés de plus, mais, n'écoutant que son courage, me mena à bon port. Magnifique, quoique, là aussi, un petit peu trop touristique. Les maisons de couleur flottaient au bord de l'eau, petites de taille, fières de leur peinture, de leur personnalité. Elles semblaient dire au regard des badauds « Tout en ce monde n'a pas besoin d'être grand pour être beau. » Un petit port à dame et lame des poètes avec une vue sur l'île dont j'oubliais sans cesse le nom. À charge, encore trop de boutiques. À décharge, un marchand de glace qui encouragea ma gourmandise, m'incita à déféquer plusieurs fois dans la journée. L'île regorgeait de petits ports tranquilles. Il donnait à mes souvenirs scolastiques l'aiguillon approprié pour briller devant mon rétroviseur. Un petit port breton devant la mer sauvage s'éveillait, les bateaux amarrés au rivage, mais comme impatients de bondir sur les flots. Les pêcheurs, Auguste Briseux. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire la parallèle avec la Bretagne ou l'Irlande quand, surgit au coin d'un petit bois, d'une lande rousse, d'un promontoire de rochers, d'une colline pelée, vous découvrez un énième port. Un autre coin charmant, tout aussi accueillant, tout aussi surprenant, pas tout à fait pareil. Il devient de suite votre préféré. Le temps de s'en imprégner, d'humer ses odeurs, d'identifier ces mêmes gens au regard de pierre qui vous passent au travers, puis de l'oublier quand en arrive un autre. Celui d'après, le suivant, toujours plus beau. Celui qui chasse la nostalgie, s'ouvre à d'autres sentiments, les mêmes. Seul votre cuir vieillit et votre cœur fait boum du début à la fin. Un surfeur bossant chez les Belges m'avait conduit, avec sa planche, à Tofino. En pratique, le seul paradis pour la glisse. Un amateur qui se respecte teste lui-même ou va mourir au bord d'un bar à discours. La houle des beaux jours de Tofino, c'est un peu celle de la torche, m'avait-on dit. Comme je n'excellais en rien dans l'art du tube, je fis le détour pour voir. Le peu de vagues comme leur manque de puissance me suffisait. Les quelques glisses réussies me comblèrent. Le surf, là comme partout, c'était un état d'esprit, une manière de larguer les amarres avec des gens qui ne s'embarrassaient pas de chichi. des enfants perdus parmi les conneries, les couilles du quotidien. Ils s'offraient de petits vertiges, chargés des respirations iodées le temps d'un plaisir. Dans ce coin, les plages de sable étaient nombreuses, les baies intimes, sorties tout droit d'un conte, les îlots pour Robinson, en devenir, jaillissaient qu'à un quart. Il suffisait de se laisser bercer. Vers le sud, Yuki, port moins contaminé par les afflux touristiques, sonnait souvent l'heure du retour aux cabanes. À la longue, une petite moitié sud de l'île n'avait presque plus de secrets à force d'y avoir creusé mon sillon curieux. Il me restait à découvrir l'autre moitié. Port Hardy était presque le bout du bout. Je m'apprêtais à le visiter quand soudain. En fin de soirée, une fois nourri, le Belge était venu me chercher. « La tournée des Grands-Ducs, j'ai quelque chose à fêter. Au diable les bonnes femmes !» Le bougre, déjà bien éméché, prit très mal mon refus. « Je croyais avoir un bon camarade. Si tu me lâches, je vais te lâcher. » Des menaces à l'appel, des sous-entendus acides, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des reproches qui lui venaient à l'esprit. Très en colère, vexé de ne pouvoir garder la main mise sur ses désirs, presque humilié de ne pas m'avoir fait plier. C'est fou le nombre d'hommes, plus rarement de femmes, qui veulent garder le lit dans toutes circonstances, comme si leur dignité en dépendait. Probablement qu'un vieux complexe les habite toujours et encore depuis l'enfance. « Mais si, mon fils, tu es le plus beau, le plus fort, le monde sera à tes pieds. » Le Belge insista assez pour m'agacer. J'avais fini par l'envoyer bouler sans aucun ménagement comme une vieille chaussette. Il m'avait promis la foudre, puis s'était dirigé en titubant vers sa destinée, ses repères de misère, ses havres de barfly, donnant à chaque ville des pleuroirs sans oreilles, de quoi échouer ses peines, digérer ses malentendus en se rinçant la glotte. Peu enclin à supporter ce type d'attitude, car, j'en étais convaincu, empirerait avec le temps, je décidai ce soir-là de quitter Victoria avec mon sac à dos et mon couteau suisse. Le drame qui suivit appuya bien fort sur ma nouvelle option. Comme chaque soir, j'entreprenais une longue relaxation salutaire, la seule discipline que je pratiquais avec sérieux. Ainsi, je m'assoupissais apaisé, débarrassé de tous les parasites d'un passé pas toujours glorieux dont les bévues collaient à ma mémoire. Je m'endormais alors sans peine, donnais à mes rêves toute latitude, m'éveillais bien disposé à sourire de nouveau, aux réalités fussent-elles agaçantes. Ce matin-là, vers 7 heures, la Belge était venue fracasser ma porte. Je fus surpris de l'avoir débarqué dans mon fourbi vêtu de peu. Sa nuisette, seul habit sur sa peau, laissait au regard gourmand du petit matin d'audacieuses perspectives. La Belge m'annonça le souffle court qu'un grand malheur était arrivé. Sans être surpris, connaissant les excès du bonhomme, j'avais tout de suite pensé à une conduite scélérate de l'époux incriminé. Il avait dû commettre quelques coûteux impairs difficilement réparables aux yeux de son épouse. L'ivresse faisant d'un homme réfléchi et sensé un imbécile de première. Tout acquis à la cause de la dame, Louis aux aguets, à la découverte d'actes odieux, je prêtais l'essentiel de mon attention aux faits divers de ce couple. Excepté que, bien que n'ayant pas d'attirance particulière pour les femmes mûres encore très désirables, je n'avais pas pu m'empêcher d'observer avec un peu trop d'attention les seins lourds de la Belge. Je compris d'un coup l'intérêt de jeunes et faibles pour les cougars, trouvant réconfort et aisance, tandis qu'ils comblaient de chair fraîche et appétissante à gourgandine. Cette alliance décriée par le bien à propos, surtout par les jaloux n'osant pas, donnait pourtant un souffle intergénérationnel salutaire. Sous le léger voile transparent, rien ne m'échappait. Elle avait des aréoles de rêve comme je les aimais. L'idée que je puisse m'en repaître m'accapara tout entier. Les deux fruits généreux excitèrent ma gourmandise, me firent un effet dingue, m'électrisèrent. Une pulsion de mal en rut à peine contrôlable paralysa la moindre de mes volontés. Mon sexe tendait mon slip. Je sentis un bout de gland s'échapper, prendre ses aises, refuser la prison de coton, appeler à l'aide, congestionner comme s'il retenait sa respiration, prêt à expulser son désir. C'était presque douloureux. Jamais auparavant, je n'avais ressenti un tel désarroi, une telle honte dans cette situation. Bien au contraire, armé, fier de cette tension délicieuse, j'avais plutôt tendance à creuser le ventre. Alors que là, devant cette femme qui ne m'était rien, j'étais affreusement gêné, dans le rôle de la souris qui voudrait bien se cacher, mais qui ne trouve pas de sortie. Tout à son malheur, la Belge ne s'en rendit même pas compte. De quoi vexer l'instrument, tandis que j'enfilais un pantalon. Des promeneurs vespéraux l'avaient aperçu faire des nœuds avec ses jambes, tituber le long du quai, puis chuter dans le bassin. mais le plouf ne fut pas suivi de gesticulations, de hurlements désespérés, d'un appel au secours vibrant. Les passants se précipitèrent. Le corps immobile flottait les bras en croix avec une idée d'éternité qui convainquit de suite. La carcasse inerte comme en suspension terminait à l'évidence sa course. Il fut d'ailleurs impossible de lui redonner goût à la vie. L'hydrocution sonna le glas d'une existence maladroite, victime d'un passé douloureux. Le Belge m'avait confié, me postillonnant dans les oreilles, son passé d'enfant abusé, bien trop douloureux pour être oublié. Ces confessions interminables au bord du bar n'avaient servi qu'à maintenir la blessure ouverte. Son âme, devenue noire dès l'enfance, s'éparpilla sans jamais s'éclaircir. Un père brutal, tripoteur, impitoyable, vicieux, se repaissant de la douleur d'un enfant. Une mère qui détournait la tête avait suffi pour tatouer le destin du Belge. La veuve pleurait à chaudes larmes. Je la tins dans mes bras pour la consoler un peu. Sa poitrine, qui s'écrasait sur mon torse nu, me fit bander de rechef. Comme ensuite elle m'expliqua geignante et hoquetante que le décès tombait vraiment mal, juste avant la belle saison, qu'elle aurait bien de la peine à diriger l'entreprise, mon potentiel désir rendit l'arme flasque. A priori, le temps du chagrin était déjà terminé. Le pragmatisme de classe l'avait laminé, les contingences prenaient le dessus. Il lui suffirait de trouver un autre colocataire ou à défaut un associé pour finir sa vie sans perdre de radis. Heureusement, elle me croyait sans le sou. Je n'eus pas besoin de décliner une quelconque proposition. Sans un mot, sans un regard, sans la moindre acrimonie pour cette femme, finalement pas tellement différente de mon attitude d'avant, je quittai mon home en fin de matinée en direction de Port-Hardy.
Je ne suis pas d'accord. Il a fallu qu'il s'entiche de ce clodo venu de nulle part. Bien trop poli pour être honnête. Il ne trouve rien de mieux que de l'héberger dans la cabane au fond de notre jardin et même de lui prêter notre vieille camionnette. De là à ce qu'il se barre avec. Comme ça ne suffit pas, il le graisse au black sous le prétexte de l'aider à sortir la tête de l'eau. Je ne suis pas loin de penser qu'il fauche dans les rayons. D'ailleurs, depuis un moment, les vols ont augmenté. La saison touristique n'explique pas tout. En plus, ce feignant refuse de bosser toute la semaine. Si c'est pas malheureux, il passe son temps à bagnauder. Probable qu'il trafique. Je me suis laissé dire qu'il fricote avec les jaunes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il leur parle. Quant au dimanche, n'en parlons pas. On doit promener monsieur, lui faire visiter notre terre d'accueil, lui faire connaître l'île de long en large. Ben voyons, pourquoi pas lui donner la combinaison du coffre ? D'accord, je reconnais qu'il donne le change, fait preuve de politesse à mon égard. Je me demande bien pourquoi. Ça pue cette histoire, c'est louche. D'ici à ce qu'il vienne nous égorger pendant la nuit, il n'y a pas loin. Rien de plus facile pour lui. Il passe par le garage et hop, c'est fait. Dire qu'on travaille comme des forçats, à se demander pourquoi quand on sait qu'en un claquement de doigts, tout peut s'effondrer. Pour ajouter du mal au mal, il entraîne mon mari toute la nuit dans des bouges dont ils ressortent ronds tels des matafs en escale. C'est peu dire que je suis fort en colère. Ma vie s'effondre. Un appel a suffi. Sous le choc, je ne sais pas ce qui me prend. Je vais le voir, mais il a l'air de s'en foutre comme de sa première dent. Je vois tout de suite que je n'ai rien à attendre d'un pauvre type comme lui. J'avais raison, il n'est vraiment pas fiable. Une fois.